Vous avez quelqu'un là-dessus?
Laisse-la.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Je laisse mon téléphone ici parce qu'on
enregistre
les conférences.
Ah, d'accord.
Donc, j'enregistre avec ça.
On a intérêt à pas dire trop de sottises.
Ah, c'est ça. Vous nous mettez la pression.
Alors, c'est.
Moi, je suis Saskia.
Ah, d'accord. Bon.
C'est pas facile.
Je ne sais pas, oui, je pense que. Oui, on va. Je prends un stylo. Encore une. Ah, il y en a quatre, c'est bon.
Merci, je l'ai encore. Hein.
Ah, vous l'avez encore?
Ah, ben.
Ah, merci, bien, merci encore. Ah.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Je vais le dire avec plaisir.
Les petits retours de lecture, hein, c'est pas fini.
Ouais, ça va faire plaisir. Moi
aussi, je vais dans le salon. D'accord. J'ai compris qu'il y avait un message. Ah, mais c'est pas le bon truc, ça, hein. C'est pas le bon truc.
J'en ai dû faire la construction du temps.
Son petit sourire avec amour,
Bonjour, messieurs, dames.
Bonjour.
Alors, tu vas. Allez-y.
Bon, enfin, c'est une période toute particulière, un peu de contexte. Quelle idée.
Je crois même que...
J'ai jamais vu un auteur devant son livre à ce point-là,
mais parce que
à, la, à, la, à une table ronde.
Non, mais parce que j'ai souvent fait des
parties. Et si on fait un seul livre,
alors,
tu veux que je me mette là, à côté de toi, c'est mieux.
Non, parce que là, tu vas...
Moi, je vais parler, donc...
Voilà, mesdames et messieurs, on va... Nous allons... Les historiens sont bruyants. Non, mais je...
Merci.
Je rigole. Nous allons commencer cette rencontre qui est consacrée donc à la mémoire. Mais nous allons prendre quelques minutes avant pour présenter le livre de Elliott Sazoulay pour Tommy. Alors, c'est un ouvrage particulier qui demande à son auteur de se présenter, parce que Elios ne devait pas participer à cette rencontre ici, mais je crois que tu as un train qui doit t'emmener vers d'autres horizons, et donc il s'est réfugié chez...
Et on l'accueille.
Il est réfugié dans cette rencontre. Et donc Elios, pour Tommy, je disais, c'est un ouvrage très très particulier, donc tu quelques minutes pour nous le présenter.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Alors, deux petits points techniques pour vous. Il ne faut pas mettre sa main en bas parce que c'est l'émetteur. C'est pour ça qu'hier on bloquait un petit peu pour ceux qui étaient là hier.
Non, mais je comprends. L'important, c'est de s'adresser à ceux qui prennent la parole, n'est-ce pas ? L'important, dans les mots de mémoire, dans les expressions de devoir de mémoire, dans les mots de transmission, c'est que ces mots soient peuplés. Autrement dit, aujourd'hui, tous ces mots-là, nous les employons, les historiens les emploient, les militants les emploient, mais pensent que ce sont des mots qui sont à utiliser parce qu'ils sont là pour convaincre. C'est pas qu'il ne faut pas faire croire aux mots, en fait il faut croire aux mots pour les rendre intelligibles et pour les rendre efficaces. Et le seul moyen, c'est de retourner à la sensation, de retourner à la sensibilité, de retourner à l'émotion même, et pas du tout à l'éloquence. On pourrait dire, pendant encore 2 siècles, 3 siècles, 6 millions de morts, que on ne saurait pas de quoi on parle si nous sommes incapables de retourner à l'unité. Le seul moyen de savoir ce qui s'est passé pour 6 millions, entre autres, de juifs assassinés dans les camps de concentration, c'est d'entrer par le trou de la serrure du destin d'un homme. Et c'est ce que propose mon dernier livre, qui s'appelle Pour Tommy, que je vais, si vous voulez bien, vous présenter. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Bedřich Fripa, qui était un peintre. Il a été déporté à 50 km au nord de Prague, dans un camp qui s'appelait Terezín. Là-bas, il a été nommé, c'était un ordre, il n'en avait bien sûr pas le choix, par les nazis, par la commandantour, directeur d'un département de dessin technique où lui et un certain nombre de peintres étaient obligés de produire jusqu'à l'oubli, si je puis dire, des plans stupides, des graphiques et des dessins de propagande. Perpendiculairement à ça, dans la clandestinité de son œuvre obligée, Bedřich Fripa peignait en secret la vérité du camp et tenter de gueuler sur des feuilles de papier dont il avait la possibilité, comme l'encre, qu'il avait les tiroirs remplis, eh bien il pouvait, en se cachant, pendant que ses camarades montaient la garde, peindre la réalité. L'encerclement de la mort, l'encerclement de la terreur, l'encerclement de la faim, la folie, la vieillesse, la mort, les pendaisons. Et toute cette œuvre clandestine, il la planquait. Il était là-bas avec sa femme et son petit enfant, Tommy, de 3 ans. Et pour les 3 ans de Tommy, il lui a offert un livre de 52 petites aquarelles, sublimes de rondeur, de précision et de tendresse. incroyable. Ce sont des aquarelles très belles, les couleurs sont tendres, sublimes. Et il a fini par se faire prendre, lui, ses camarades. On a découvert leur dessin clandestin. Il a appris la veille que les nazis allaient l'arrêter. Ainsi, la veille de son arrestation, il planque toute son œuvre clandestine dans une grande malle de métal. Près de 300 dessins, vous vous rendez compte, on ne parle pas là d'une œuvre étroite, on parle de 300 dessins, dont certains sont près de 1 mètre. Enfin, je veux dire, moi je les ai eu entre les mains au musée juif de Berlin, entre les mains, on peut dire comme ça, au musée juif de Berlin. Je vous dirai pourquoi je me suis attardé et j'ai basculé, je me suis pris les pattes sur le mot main, et je terminerai. Et je me suis pris les pieds sur le mot main. Ah, c'est beau ça. Donc on parle bien d'une œuvre importante, 200-300 dessins qu'il met dans une grande caisse de métal qu'il enterre sous terre, près d'une vieille ferme, dans la cour d'une vieille ferme, dans le camp de Térésie. Il est torturé. Eichmann lui-même est présent pour le premier jour d'interrogatoire. Et lui et tous ses peintres n'avouent pas et sont envoyés à Auschwitz. Son enfant et sa femme, Abel Richwita, sont dans le cachot de Térésie. Il reste dans ce cachot. Friedrich est envoyé à Térésie. Et on imagine que dans le convoi qui le mène, dans le train qui le mène vers l'est, c'est-à-dire vers Auschwitz, on imagine que cet homme-là, Friedrich Fritta, échange avec un ami et qu'il lui dit où il a planqué ses dessins. D'ailleurs, l'un à l'autre savent où ils ont planqué leurs propres dessins. N'est-ce pas? Et c'est là qu'un homme qui s'appelle Léoas fait une promesse incroyable. Une promesse de mèche, comme on dit en yiddish, d'homme. Il lui dit, écoute, si jamais je devais survivre, si jamais tu devais mourir, j'adopterai ton fils de 3 ans, Tommy. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que dans la poche de la catastrophe, il y a le miracle d'un homme qui survit malgré tout à ça. Friedrich meurt, Léo a survi. À la libération, 2 jours après la libération, Léoas retourne à Térésine où il retrouve le petit Tommy qui entre-temps avait perdu sa mère du typhus il y a 4 ans. Et il tient sa parole, il adopte Tommy, va vers les autorités de l'armée rouge qui avaient libéré le camp et demande la possibilité de déterrer les dessins que son ami lui avait indiqués, la planque était indiquée. Et les voilà aujourd'hui, ces dessins, à nous, pour nous. Je dis pour nous parce que c'est un art d'hériter, et que maintenant, nous sommes les héritiers de ça. Les voilà maintenant, pour nous, ces dessins, pour la première fois. Je terminerai, puisque j'ai promis d'être court, et j'adore le... C'est super, on est obligé d'être intense. Voilà. Je vous laisserai vous perdre.
C'est pas un cadeau, là.
Le livre marche et j'en suis infiniment heureux et profondément touché et profondément surpris, parce que moi je suis toujours surpris quand un bon livre marche. Parce qu'en général, c'est très souvent le contraire, je suis désolé de le dire pour les auteurs à succès. Mais en tout cas, je suis tout à fait vraiment très très surpris que ce livre marche. Voilà. Tout le monde dit oui, mais c'est... 10 jours après la publication de ce livre, j'étais à Berlin pour un concert et un des fils de Tommy me dit « je t'invite à manger ». On va manger ensemble dans un petit restaurant, berlinois. Et
c'est pas moi,
ah oui. Et il me dit, écoute, j'ai avec moi.
Et il me dit, écoute, j'ai avec moi Tommy. Sur la banquette arrière de la voiture, ça, on s'était donné rendez-vous à Checkpoint Charlie, n'est-ce pas? Et alors il me dit, bah bon, j'ai avec moi Tommy. Et j'ai pas compris, je croyais que, comme le livre venait de sortir 10 jours avant, je me suis dit, bref. Il a avec lui Tommy, autrement dit, il veut que je lui dédicace, j'en sais rien, enfin, je n'ai pas compris. Et sur la banquette arrière, je vois une sacoche, vous savez, Spider-Man, Superman, avec le grand Superman. Il y a Tommy là? Non, il me dit, non, mais le vrai Tommy. Il avait pris avec lui, pour ce rendez-vous, l'exemplaire original, c'est 52 dessins, le vrai livre recouvert là, qui était recouvert à l'époque de trucs de pommes de terre, vous savez, un sac de pommes de terre, incroyable. Et il me dit, en fait, depuis la publication de ton livre, nous avons décidé avec nos frères et ma sœur de donner le livre au musée juif de Berlin. Nous y allons. Et c'est là que j'en viens à la main et aux mains. Et je terminerai sur ça. Nous arrivons au musée juif de Berlin avec ce sac Superman, cette sacoche. On sort le livre, la directrice du musée Jules de Berlin est là, nous sommes moi, lui, la directrice, lui, moi. Et pour moi, la logique, c'était que cet homme-là, avant de donner le livre, le feuillette une dernière fois. Donc je lui dis, bah, cher David, c'est donc le fils de Tommy, hein, puisque Tommy est mort en 2015. Le fils de Tommy, je dis, bah, feuillette le livre. Voilà. Et il dit, non, je ne peux pas le faire. J'étais ému, bouleversé, n'est-ce pas? Je ne peux pas le faire. Prends le livre et tu feuillettes à chaque page et je photographie chaque page. Voilà. Bon, ce livre qui était dans leur famille depuis 1945. Et je dis ok, et il me tend le livre, et il me dit cette phrase sublime, aussi puissante que la phrase d'un être zen, n'est-ce pas? Un koan, comme on dit dans le zen. Il me dit, last time without gloves, la dernière fois sans les gants. C'était sublime. Donc certes, on ne peut plus toucher Tommy, mais Tommy saura vous toucher, messieurs, dames. À très bientôt. Je vous remercie infiniment. J'étais suffisamment court.
Non, c'était super.
Vous avez compris que Elias Azoulay est un formidable conteur, auteur d'un formidable livre. Un petit livre par la taille, je crois que c'est un grand livre par son humanité, par ce qu'il contient.
Bah, j'espère de tout cœur.
Merci.
Oui. Je vous laisse, merci.
Et en plus, c'est un homme de parole. Il a dit, je ferai 10 minutes. Il a fait 10 minutes. Est-ce que nous l'embrillons? Merci, Elias. Personnage.
Non, on va y aller.
Oui.
Alors c'est 10 minutes que nous avons offert, mais non, plutôt que lui nous a offert.
Bah, absolument, il nous a offert ces 10 minutes.
On les récupérera avec vous. Vous les récupérerez à la fin. Et si on vient nous gronder, on fera le dos. Parce que le truc est assez calé. Alors transmettre la mémoire, c'est le thème de cette rencontre avec deux auteurs. De livres que vous trouvez bien évidemment sur le salon, La résistance à l'héritage de Nicole Baum, Baum Scario.
Oui.
On dit Scario ou Scariote?
On dit Scario.
Oui. Scario. Pardon, je te donne le micro après. On n'a qu'un micro, pardon, pour des raisons techniques. On se le passe. Elle est agrégée de philosophie, psychanalyste, docteur en psychanalyse. Bon. Elle est périgourdine.
En tous les cas, je suis née à Bénac.
Voilà, on reviendra sur ton histoire. Et là, c'est un auteur qui vient d'Alsace, n'est-ce pas? Et qui est docteur en histoire contemporaine et qui a deux livres à présenter sur le salon, même peut-être plus. Oui, quatre. Stolperstein, et nous allons nous arrêter en particulier là-dessus, et la boîte à offert. Alors, première question, donc, je vais donner la parole à Nicole. Tu es née, parce qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés. Donc tu es née à Bénac, mais ton histoire, elle est partagée, tu es née après la guerre.
Voilà,
La résistance à l'héritage.
Voilà, oui.
C'est un formidable résumé de ce livre.
Bon, c'est difficile de prendre...
Très près du micro.
Ah oui, non,
sans toi, voilà.
Voilà, je ne sais pas si on entend. Mais c'est difficile de passer après Elios. Et en même temps, c'est un honneur, hein, parce qu'il a magnifiquement ouvert la séance sur tous les problèmes qui nous rassemblent ici. Hein. Et en particulier, il a parlé d'héritage, et il a dit que c'était pas si facile que ça d'hériter, et que oui, c'est pas si facile que ça d'hériter. Donc mon propos, c'est justement de... Je me suis rendu compte, en fait, que bien que mes parents ne m'aient pas laissé grand-chose de matériel, semble-t-il, j'avais quand même un héritage. Et finalement, dans un héritage fabuleux, que leur rencontre avec, leur implication dans l'histoire, avec un grand H, et les histoires qu'ils m'avaient racontées à propos de cette histoire, avaient rendu possible ma propre histoire. Hein. Mais il a fallu pour ça que ma mère ait disparu. Et récemment, j'ai vu le film de François Bunel sur Jim Harrison, hein, « La seule, la terre est éternelle ». Et Harrison cite au début cette phrase d'un Indien Crow, « Quand celui qui raconte les histoires sera mort, qui racontera les histoires ?»
Et je me suis dit, oui, voilà, qui racontera ces histoires? Elles ont disparu, c'était des histoires qu'on va raconter. Donc j'ai voulu sauver quelque chose de cette mémoire familiale, de ce discours maternel sur la résistance, parce que ma mère a bercé ou hanté, je ne sais pas, les deux, hein, sans doute, notre enfance, toute la vie qu'on a passée ensemble, de ce qu'elle portait encore et qui se rapportait à la résistance. Et donc, j'ai voulu faire ça, j'ai voulu sauver quelque chose de cette mémoire, hein. Et ça m'a ramené évidemment à la Dordogne, qui est un pays magnifique, où il y a plein d'animations touristiques actuellement, mais qui a connu des heures extrêmement tragiques. Bon, comme beaucoup d'endroits en France, mais particulièrement là. Et j'ai pris contact avec à nouveau ces lieux, cette histoire, et encore hier, j'ai vu quelqu'un venir me voir et m'a dit « J'habite Vérines ». Et je ne savais pas du tout qu'il y avait quoi que ce soit d'historique dans cet endroit. Donc, et il y avait deux adolescentes qui étaient là.
Pour info, Vérines, sur ceux qui ne sont pas d'ici, c'est là.
Oui, voilà.
On est quasiment à Vérines.
Oui, voilà.
C'est la commune.
Alors, donc, finalement, quand même, la Dordogne commémore ses héros. Il y en a eu beaucoup. Hein. Mais il y a beaucoup de héros qui ne sont pas commémorés et qui ont existé et qui ont été présents dans cette histoire héroïque. Et donc, mes parents, finalement, font partie de ça. Hein. Ils faisaient partie du groupe FTP Moy. Alors, d'ailleurs, hier...
Moy, on peut expliquer?
Oui, voilà. Mathison, quand je lui ai dit FTP Moy de Vérines, il m'a dit « Ah bon, je ne savais pas qu'il y avait des FTP Moy de Vérines, c'est Mathison. » Parce qu'à Vérines, dans Dordogne, je pensais qu'il n'y en avait qu'à Paris. Donc, vous savez... Alors, Moy... Alors,
et même FTP, là.
Alors, oui, Franc-Tireur Partisan, c'était donc des résistants pour beaucoup des communistes, pour beaucoup qui se sont... fédérés avec les brigades internationales des républicains espagnols réfugiés ici, dont le commandant Carlos, on en parlera. Et donc toutes ces personnes communistes, avec finalement des idéaux internationalistes, se sont retrouvés dans ce maquis de Franc-Tireur Partisan et Moy. Moi, je me suis rendu compte, à force qu'on m'en parle, ça voulait dire main d'œuvre immigrée. Mais moi, dans ma famille, je n'ai jamais entendu ça. J'ai toujours entendu mes parents dire qu'ils étaient membres de la main d'œuvre internationale. Bon, et non pas main d'œuvre immigrée. Hein. Ils ne se sentaient pas immigrés, ils se sentaient internationaux, ils se sentaient universellement engagés dans la lutte contre le fascisme. Et c'est ce qui a réuni énormément de nationalités dans ce petit maquis de Dordogne. Alors pourquoi ils étaient en Dordogne? Ils n'étaient pas là. Hein. C'est qu'il y a eu la débâcle, hein, et en 40, le régiment de mon père, de mon oncle Piero Gara et de mon père Mario Scario, a été démobilisé à Bergerac. Et ils sont restés cantonnés là jusqu'à... Je pense que Patrick Rolly rectifiera les erreurs historiques. Ils sont restés cantonnés là jusqu'à ce qu'on les... jusqu'à ce qu'on les libère. Et certains sont partis avec l'accord de leur commandement et des armes. Et ça a essaimé dans les premiers maquis de Dordogne. Donc, mon oncle Piero Gara et mon père et un autre de leurs copains, Gilbert Hutin, se sont installés ici, à Jérôme Péchaud, par exemple. Mais mon père est reparti en Dauphiné, parce qu'il avait sa famille là-bas. Bon. Et en Dauphiné, donc, il y avait aussi ma mère qui l'a épousée là-bas. Et il y avait déjà un réseau de résistance communiste. Alors, mon père a été... je suis trop long, hein, c'est trop long. Mon père était un Italien, d'origine italienne, il a été naturalisé en 36, il avait 16 ans, et il a fait la guerre, le service militaire, et la résistance en France. Mais Mussolini n'a jamais reconnu cette nationalité, et il a été considéré comme déserteur en Dauphiné, et donc il était prévu qu'il soit expédié à Königsberg. Il a refusé cet envoi, il a pris le train, il est venu rejoindre mon oncle Pierrot qui avait formé un premier maquis à la Chapelle Péchaud. Et Ensuite, toute la famille Gara, la famille de ma mère, a rejoint ce maquis en Dauphine, en Dordogne. Et là, en Dordogne, bon ben, il y a eu le 20 août 44, à la libération de Périgueux, il y a eu un massacre à Théora dans lequel mon oncle Pierrot, qui poursuivait avec d'autres FTP résistants un groupe de SS des salopards, on va dire, hein, qui avait fait déjà pas mal d'exactions connues sur Sarlat, il les poursuivait, ils ont été vendus par quelqu'un, et les Allemands les ont pris à revers, et donc cet oncle, qui avait deux enfants de 3 et 2 ans, ils lui ont crevé les yeux, ils l'ont éventré, ils ont déchiré les photos des enfants, ils l'ont placé dans les poches de la chemise, ensanglanté. Et c'était ce drame, surtout l'atrocité du... Il n'a pas parlé, les écrits qui ont été faits là-dessus. Il n'a pas parlé, enfin, non, que pouvait-il dire? Je ne sais pas. En tous les cas, il n'y avait pas des enjeux majeurs pour le faire parler, puisque toutes les troupes allemandes étaient en fuite depuis Périgueux pour rejoindre Bordeaux. Donc il a été torturé avec une sauvagerie pas possible. Et donc cet acte-là de barbarie, en définitive, est resté dans la famille comme quelque chose d'absolument inassimilable. Inassimilable. Et donc je pense que ma mère n'a jamais pu se... supporter ce qui s'était arrivé à son frère, ce qui arrivait à ses neveux, à sa belle-sœur, à toute sa famille. Et donc elle a été, pendant toute notre enfance, un véritable mémorial, avec beaucoup d'histoires, mais beaucoup de silence aussi, de ce qui s'était passé. Hein. Voilà,
il faut que j'arrête. Non, mais on va reprendre.
Oui, oui. Voilà. Excusez-moi.
Voilà, ce qu'il nous a raconté, je crois, décrit bien une situation. Je pense que dans les années 30, il y a eu une vague d'immigration italienne,
oui,
qui était due à un certain Mussolini.
Oui.
En 39, il y a eu une vague d'immigration, en Périgord on parle, hein, Périgord noir en particulier, puisqu'on est là, une vague d'immigration espagnole due à M. Franco,
oui,
c'est la chute donc de la République, la retirade.
Oui, voilà.
Et puis en 39,
à nous,
l'évacuation des Alsaciens en Dordogne, c'est-à-dire que cette année 39-40 est quand même une drôle d'année, c'est Babel en Périgord. Et donc c'est dans ce cadre-là que...
Absolument, Babel en Périgord, très bien.
C'est là que se situe ton histoire personnelle, familiale. Il y a eu, tu t'as évoqué, des faits de grande violence. De grande violence qui ont été commis, bien évidemment, par l'occupant, par les nazis, par la milice, par ce que nous appelons les bicots, c'est-à-dire une brigade extrêmement violente constituée de Nord-Africains. Mais il y a eu aussi de la grande violence de la part des résistants, ce qui se comprend, et on peut même les en remercier aujourd'hui. Est-ce que tu penses que le fait que les résistants n'ont pas... se sont enfermés dans une sorte de... certains résistants, pas tous, dans un silence. Est-ce que cette violence n'est pas constitutive de ce traumatisme qu'ils ont vécu très longtemps et qu'ils ont transmis à l'héritage?
Oui, il y a de ça. Mais je parlerais plutôt d'une catastrophe de l'espoir. C'est-à-dire que ces gens-là se sont mobilisés pour un avenir, pour l'émancipation, pour une fraternité, pour l'universel. Et ce qui s'est passé après n'a pas été du tout à la hauteur. La deuxième partie de ce livre rencontre quand même, moi je pense, le drame, hein, de quelqu'un, mais comme peut-être beaucoup d'autres, de la faillite, d'un certain point de vue, de leurs idéaux. Mon père était communiste, il a été viré du parti au moment de la Hongrie, et c'est dans le livre, un jour mon père est rentré, il m'a dit « Ouvre ton livre, ton dictionnaire, cherche déviationniste. » Et devant toi, tu as un déviationniste. Ton père ne fait plus partie du parti communiste. Voilà. Et c'était terrible, hein. C'était terrible. Il avait, bon, je raconte les luttes, les grèves, le militantisme, l'engagement pour l'émancipation. Or, c'est surtout ça qui les a brisés. Ah, et puis, je suis obligé de le dire, puis je vois que Mathison, hier, a quand même ouvert la voie aussi, on a parlé après, qu'il y a eu une capture, je le dis, tant pis, une capture des faits de résistance et de la lutte par la vulgate gaulliste, hein, voilà, quand même. Donc il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de déchirements à l'intérieur de la résistance qui finalement ont fini par occulter la violence qui était en jeu dans la lutte contre le nazisme. Voilà. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai lu un bouquin qu'avait écrit Anne-Marie Coppula et Bernard Lachaise sur la résistance en Dordogne, et il y a une photo qui est tombée. Et c'est idiot, mais une photo est tombée, et là j'ai regardé cette photo, parce que j'avais vu, elle était dans le livre, mais elle était tronquée. Et dans la photo qui est tombée, sur la partie à droite, il y avait quelqu'un qui avait été coupé dans le livre de Fanlac, et donc l'éditeur restituait la photo, et vous la regarderez si vous feuilletez le livre. Vous avez là une poignée de gens de toutes les nationalités qui sont sous la direction d'un commandant, le commandant Paul, qui est un Polonais. J'ai essayé de retrouver, je ne suis pas historienne, hein, mais peut-être ça je le ferai. Mon fils m'a dit, je chercherai la traduction, on va trouver ce type. Donc il est là, ce commandant, avec une myriade de gens, des Turcs, des Arméniens, des Polonais, des Autrichiens, des Italiens, un Français, mon père, bien malgré son nom, enfin tout un tas de gens qui sont passés et qui sont allés ensuite sur le front jusqu'à Royan. Ils ont poursuivi les Allemands jusque là-bas, ils ont fini la guerre vraiment très tard. Et tous ces gens-là, où sont-ils? On n'en parle plus, quoi. Ils n'étaient pas d'ici, ils sont repartis ailleurs. Alors que reste-t-il comme trace? Bon, les historiens cherchent des traces. Il y a des... Patrice Rolly, qui est parmi nous, essaye au maximum de faire d'amener les gens à circuler dans un paysage actuel qui est plein d'invitations à lire plus loin, à aller dans les profondeurs du passé. Et je vais arrêter là. Je vais dire que pourquoi j'ai écrit, finalement, d'avoir passé du temps dans cette dimension qui est celle qui est révolue, qui n'est plus de maintenant. Hein. Et bien ça m'a donné un supplément d'avenir. Quoi. Je me suis dit, c'est bizarre, hein, au lieu de me plomber, ça m'a donné un supplément d'avenir. Et je me dis que transmettre, c'est arriver à partager des histoires qui nous donnent un supplément d'avenir. Parce qu'on se rend compte que quelque chose avant nous nous a amené là, nous constitue, et c'est pas toujours des choses. Et enfin, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est très difficile, et c'est chacun d'entre nous, et c'est quelquefois de toutes petites choses. Voilà, bon, enfin.
Bon, on va dans un instant donner la parole. Christophe, juste une dernière question. Est-ce que tu as le sentiment que l'enfant que tu étais a vécu avec tous ces fantômes autour?
Alors là, oui. Alors, des fantômes et des objets. Hier, j'ai rencontré un auteur qui est écossais, dont le père était pilote à la RAF, depuis l'Angleterre. Hein. Et du coup, moi, j'ai repensé. Moi, j'ai grandi assis sur un coussin en caoutchouc, était comme ça, qui venait de la résistance, me disait-on. Hein. Franchement, j'étais très attaché, je sais pas ce que ça voulait dire, mais j'avais 2 ans, je mangeais ma blédine avec ce truc-là. Ben, il y avait ça. Mon frère aîné, le truc tenait bon. Hein. On a assis mon frère là-dessus aussi. Et on savait tous les deux que c'était un coussin de la résistance. Hein. Donc c'était un coussin qui venait des parachutistes. Ma mère m'a raconté, avec à l'occasion les combats résistants entre l'AS et les FTP, qui se piquaient réciproquement les parachutages. Hein. Et les armes, hein. Donc c'était quand même pas... voilà, tout le monde n'était pas engagé avec les mêmes raisons, les mêmes idéaux, mais il y avait quand même une solidarité, mais enfin quand même. Hein. Bon, et bien voilà, il y avait ce coussin, et puis il y avait plein d'autres choses. Hein. Et j'ai découvert effectivement dans mon enfance... D'abord j'ai voulu savoir quel enfant j'avais été. Puis en circulant dans cet enfant, je me suis rendu compte que quand même pour une chambre d'enfant... Alors, il y avait leurs conflits conjugaux qui sont majeurs, la passion majeure, l'amour majeur, enfin des trucs que moi je n'aurais pas voulu revivre. C'est leur histoire d'amour. Moi je me suis éloigné de ça pour pouvoir vivre les miennes, hein, parce que ce truc-là c'était quand même assez. Voilà. Bon. Mais alors il y avait ça qui encombrait le devant de la scène. Et j'ai découvert qu'à l'arrière-plan il y avait bien d'autres choses. Hein, et qu'il y avait l'histoire avec un grand H. Et que dans ma... Alors, par exemple, la première fois que je suis allé à l'école, c'était dans un... Je crois que c'était un orphelinat. Ma mère avait trouvé un petit travail, elle m'emmenait. et puis les petites jeunes filles qui étaient là, dans la cour, c'était plein d'enfants, aucun ne riait, aucun ne courait, il n'y avait que des chuchotements. Moi j'avais 3 ans, même pas. J'étais là au milieu, et donc les grandes filles qui s'occupaient de moi m'ont dit, j'ai dit, mais vous avez l'air triste. Oui, mais c'est parce que nos parents sont morts. Alors pourquoi leurs parents étaient morts? Ben, je dis quand même, c'est dommage que les miens ne soient pas morts. Parce que quand même, j'aurais pu être leur copine, mais je ne me sentais pas bien, quoi. Mmh. Et donc ma maman me raconte, oui, mais attends, c'est un orphelinat d'enfants juifs. Alors c'était Pandorine, ça. C'était Pandauphiné, ça. Hein? Donc ma mère allait, et moi j'allais à l'école avec eux, je suis la plus petite, je ne comprenais rien. Donc là, ça m'a foutu en l'air, quoi. Et alors elle s'est mise à me raconter son frère, le nazisme, les tortures, leurs combats, tout ça. Ouais, je suis tombée malade, parce que je ne pouvais pas supporter leurs trucs. Hein. Et puis il n'y avait pas que ça, il y avait tout le temps des émergences. Alors je terminerai là-dessus. C'est-à-dire que la transmission, le devoir de transmission, c'est bien, la volonté de transmettre, c'est bien, mais on ne fait pas ce qu'on veut avec la transmission. Parce qu'il y a des transmissions froides qui sont finalement, je suis désolé, c'est indispensable, mais c'est les transmissions de l'historien, hein, c'est-à-dire les faits, les récits, les enseignements universitaires, les thèses, d'accord, ça c'est une entrée. Maintenant, il y a d'autres formes de transmission, et pendant ces transmissions-là, elles ont des éclipses. Moi, c'est maintenant que j'écris ça, et encore, je ne suis pas sûr d'avoir eu raison de l'écrire, je l'ai écrit pour moi finalement, et je vois qu'il y a des gens à qui ça parle, bon, mais c'est bien. Mais donc, il y a eu un temps de latence, un temps d'oubli, parce que dès qu'on parle transmission, la menace, c'est celle de l'oubli, ou bien de la sur-transmission avec des falsifications, etc. Donc, on ne transmet pas comme on veut. Il y a une temporalité très spécifique, hein, et on ne fait pas exactement ce qu'on veut. Hein, voilà. Et du coup, je retombe là-dessus, j'arrête. Je me suis dit, finalement, avec Christophe Erstein, dont va nous parler Christophe, ben, je fais un travail un peu comme lui dans les histoires de mes patients. C'est-à-dire, je vais de pierre d'achoppement en pierre d'achoppement. On se casse la gueule tout le temps. C'est-à-dire, on raconte son histoire, on croit que c'est celle-là, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui surgit. Ah bon, mais c'était pas prévu. Mais c'est quoi? Ça parle de quoi? D'où ça vient? C'est une réminiscence, on dit. Hein? Alors, une réminiscence, ça se maîtrise pas. Mais ça parle de nous. Hein? Alors, et donc, on veut dire quelque chose, comme disait Freud, et puis on fait un lapsus. Ah bon, mais alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? Eh bien, c'est quelque chose qui revient. Hein? Bon, on voulait faire quelque chose, puis on fait autre chose. Ça s'appelle un acte manqué, parfaitement réussi. Parce qu'on fait autre chose. Mais pourquoi fait-on autre chose? Et là, on travaille. Et au fond, eux, ils ont été en armes toute leur vie. Moi, j'ai repris leurs armes à ma manière. Et toute ma vie, finalement, professionnelle, est consacrée au service de la mémoire des gens. Hein? Et donc, et là, j'ai eu beaucoup de mal à écrire ça. Parce que je ne voulais pas mettre Scario, parce que je ne voulais pas mettre mon père, parce que je ne voulais pas que mes patients sachent. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu assumes. Alors maintenant, j'assume, et puis c'est comme ça. Puis mes patients le savent, et ça se passe bien. Voilà.
Nous allons te retrouver avec les questions que vous poserez à nos deux intervenants. La mémoire, la transmission de la mémoire. Voilà deux livres sur deux guerres différentes. La boîte en fer, l'histoire de ton grand-père.
Arrière-grand-père,
la guerre de 14-18. Et Stolperstein, donc, que fait l'historien, que Nicole disait, comment transmettre. Ça, c'est une des questions que tu t'es posée et tu as agi.
Bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce que c'est, définition?
Voilà. Alors, les Stolperstein, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, on les appelle en français pavés de mémoire, parce que lorsque je viens en Dordogne, je demande aux gens de dire Stolperstein, c'est un peu compliqué.
Achoum.
Pavé de la mémoire, c'est plus simple. Alors, les Stolperstein, Stolpern en allemand, ça veut dire trébucher.
Oui.
Trébucher à choper. Évidemment, en posant les Stolperstein, on ne vous met pas en danger, on ne les fait pas dépasser du sol, ce n'est pas vous physiquement qui devez trébucher, mais c'est votre conscience. C'est-à-dire que quand vous voyez le...
Non, s'il te plaît, pour pouvoir enregistrer.
Quand vous voyez le pavé briller, ça vous interpelle, ça peut vous heurter d'ailleurs, mais ça vous interroge, et donc vous vous arrêtez. Le projet est né en Allemagne, il y a 30 ans, 1992, aujourd'hui, c'est le mémorial décentralisé le plus grand d'Europe. Il y a 100 000 pavés posés dans 31 pays d'Europe. C'est un artiste allemand qui s'appelle Günther Demnig. Günther Demnig est fils de nazi. Son père fait partie de la division Condor, la tristement célèbre, qui a sauté sur Guernica. Günther Demnig est un artiste. Il n'arrive pas à faire la paix avec son père, il n'arrive pas à s'expliquer avec son père. Vous parlez aujourd'hui des résistants, moi je vous parle de l'autre côté du miroir.
Oui, tout à fait.
Ce qui est beaucoup plus difficile, évidemment. Et je reviendrai après sur l'Alsace aussi, qui a encore une histoire très particulière. Mais donc Günther n'arrive pas à faire la paix avec son père, enterre son père et ne lui pardonne jamais. Et il habite en 1992 à Cologne, en Allemagne. Et la mairie de Cologne appelle les artistes locaux à s'imaginer comment ne pas que les gens ne tombent pas dans l'oubli, en fait. Parce que les Allemands sont passés à autre chose et, bien sûr, préfèrent oublier. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas oublier? Et il a une idée, il sait qu'il y a eu 1000 Sinti-Roms, les Tziganes, hein, qui ont été arrêtés à Cologne et déportés vers les camps de concentration dès 1939-40. Et il y en a 1000. Et il a une idée, hein, il prend une roue de géomètre, vous savez, les roues avec lesquelles on mesure les distances. Et là-dessus, il pose des lettres. Et il y a marqué « Von hier aus 1000 Sinti-Roma ermordet » d'ici ont été déportés 1000 Sinti-Roms. Il trempe ça dans la peinture et il part de la mairie de Cologne où est parti le convoi. Et il va jusqu'à la gare d'où part le convoi. Le lendemain matin, Cologne s'éveille. Et voit au sol le texte sur 2 kilomètres, 1000 Sinti-Roms déportés. Et quand il voit le résultat de ce que ça a créé, le scandale, jamais il n'y a eu de Sinti-Roms à Cologne, évidemment, tout le monde les avait oubliés. Il se dit, c'est ça qu'il faut faire, il faut marquer le sol. Mais 1000, c'est ce qu'a dit notre ami tout à l'heure, ça veut tout et rien dire. 1000, pour lui, c'était pas assez important. Il fallait individualiser la mémoire. Et donc, lui est venue l'idée de faire ses pavés, donc de toujours marquer le sol, mais que chaque victime... Parce qu'il dit, voilà, 1000, c'est bien, mais si je pose 1000 pavés, avec 1000 noms,
oui,
ça va avoir un autre impact. Et surtout, je vais les ramener dans le quotidien des gens. C'est-à-dire que vous n'allez plus vers l'histoire. C'est l'histoire qui s'impose à vous. Et on repose les pavés devant le dernier domicile libre des victimes, là où elles ont habité en dernier lieu. Donc on va replacer ces gens dans l'espace urbain qui était le leur avant la guerre. Et donc rappeler aussi que ces gens ici habitaient, c'est le premier texte qui est sur le pavé, ici habitaient. Donc c'est aussi, quand je travaille avec les enfants, hein, remontrer aux enfants que c'est là, chez eux. Aujourd'hui, vous savez, on en reparlait l'autre jour, vous parlez à un gamin de 13 ans, 14 ans, de Auschwitz. Ça ne veut plus rien dire pour lui.
Oui,
ça ne résonne plus. C'est maintenant, et c'est normal, ça s'appelle le délitement mémoriel. Est-ce qu'on parle encore de la Première Guerre mondiale? Non, quasiment plus. Mais ça, c'est naturel. Après, il y a des moyens, comme les cheveux prochaines, pour éviter ce délitement mémoriel. Et donc, vous leur parlez d'Auschwitz, ça ne veut plus rien dire. Par contre, quand vous mettez des pavés devant chez eux, quand ils vont à l'école, quand ils vont chez le boulanger, quand ils vont dans leur quotidien, eh bien ça prend du sens parce que ça les ramène à eux, finalement. Oui, ces gens habitaient là où moi j'habitais, là où mes grands-parents ont vécu. Ces gens ont sans doute connu mes grands-parents. Et là, d'un coup, ils disparaissent, ils ne sont plus là. Et là, je les revois, finalement. Et donc, ça a un impact fort, hein. Sur l'action pédagogique qui marche très bien avec les enfants et aussi sur notre quotidien à nous, parce que vous ne... Alors évidemment les pavés, vous pouvez ne pas les voir, mais la plupart des gens les voient et s'y intéressent et s'interrogent. Qui étaient ces gens? Quel a été leur parcours? Et après on peut aller plus loin, hein, bien sûr, avec nos applications. Aujourd'hui on a cette chance, et vous l'utilisez, de pouvoir transmettre une mémoire. Voilà, donc c'est ça les pavés Stolperstein. Et donc je vous disais, l'artiste a 76 ans aujourd'hui, hein, ça fait 30 ans qu'il en pose, il pose 300 jours par an, c'est l'œuvre d'une vie. Hein. Alors quand je dis il y en a 100 000, souvent on me dit, waouh, c'est impressionnant, mais quand on sait qu'il y a 50 millions de victimes, 100 000 c'est pas grand chose. Mais on pose pas que pour les juifs, hein, on pose, évidemment c'est la majeure partie des pavés qui sont posés, mais on pose aussi donc pour toutes les autres victimes, malouches, résistants, déportés, internés résistants, déportés politiques, qu'est-ce qu'on a encore, handicapés, témoins de Jéhovah, voilà, tout ça, là. Tous ceux qui meurent des suites du nazisme ont le droit à un pavé de mémoire Stolperstein. Et donc 100 000 dans 31 pays.
Bravo.
Alors, 31 pays. Question qui va peut-être gratter un peu. Est-ce que ça a été bien accueilli par tous?
Aïe, ça pique. Ça fait 10 ans que je travaille à ce projet, que j'ai ramené d'Allemagne. J'étais moi-même étudiant en Allemagne. Et j'ai découvert ça là-bas, et en tant que prof, j'ai tout de suite vu l'intérêt pédagogique du truc. C'est ça qui m'intéressait finalement, moi. C'était et j'ai demandé à l'artiste, je lui ai dit, mais il y en a en France? Il me dit, non, en France c'est compliqué. Je connais, je suis français. Donc je conçois que ce soit compliqué, mais ça ne peut pas être impossible. J'aime pas dire ça, mais depuis 10 ans, je me bats. Et je pense que pour la mémoire, on ne devrait pas devoir se battre. Ça devrait être naturel de faire mémoire, finalement. Mais effectivement, c'est compliqué. Alors, il y a deux choses que j'aime particulièrement dire. On parle depuis 2 jours beaucoup, et surtout les politiques, hein, de devoirs de mémoire.
Oui, oui.
Alors, en tant que prof, je vais vous dire quelque chose, il y a quelque chose que les enfants n'aiment pas du tout. C'est les devoirs.
Les devoirs.
Ah, ça, ils n'aiment pas. Hein.
Oui, oui.
Vous leur dites de faire quelque chose, vous êtes sûr qu'ils ont envie de faire le contraire. Mais c'est logique, c'est humain, c'est normal. Et d'ailleurs, Simone Veil disait, elle ne veut pas de ce mot. Elle refusait le mot devoir de mémoire. Hein. Moi, les enfants que j'entoure sur les pavés, chaque pavé est posé avec une école. C'est systématiquement. On travaille avec les CM2, on travaille avec les 3e, on travaille avec les lycéens, parce que c'est au programme. Hein. Et ils sont, moi je les appelle les acteurs de mémoire.
Oui, tout à fait.
Les enfants aujourd'hui, pour qu'ils accrochent, il faut les emmener avec, mais il ne faut pas les diriger. Ils veulent s'accaparer la mémoire. Et ils sont tout à fait capables de s'accaparer la mémoire. Et vous seriez surpris en CM2. Je peux vous en raconter parce que j'en pose régulièrement. On a posé la semaine dernière un pavé en Alsace pour un monsieur qui a été, donc un Alsacien, qui refuse d'intégrer l'armée allemande et qui, comme seule arme, il a 16 ans. Se met sur la place du village et chante la Marseillaise. Il est arrêté, déporté, d'abord interné à Schirmeck, hein, qui est un camp de redressement pour les Alsaciens, parce que quand on était passage, on nous redressait, les nazis, et finalement déporté en Allemagne et assassiné. Et il y avait là des enfants de CM2, et bien sûr, on a fait un travail pédagogique avec eux. Et bien, je peux vous dire, et le maire me l'a dit, c'est la première fois. Et pourtant, tous les 8 mai et les 11 novembre, les enfants sont là et chantent la Marseillaise. Eh bien, c'est la première fois qu'elle résonnait. Parce qu'en fait, ils ont compris, ces gamins, quelle était l'importance de cette Marseillaise. Même si on n'est pas d'accord avec le contenu de la Marseillaise, les mots, tout. Là, la Marseillaise prenait vie par ce gamin qui l'a utilisée comme une arme et qui en est mort. Mourir pour chanter une chanson. Je peux vous dire qu'à 10 ans, ça provoque quelque chose. Et ce pavé, ils l'ont posé avec nous, ils ont chanté cette chanson, et ils se sont approprié cette mémoire. Et ce monsieur, qui avait été totalement oublié de la mémoire de ce village, eh bien aujourd'hui, c'est un vrai héros, et il sera honoré par ses enfants, en fait, qui vont revenir chaque année, parce que ça, c'est l'avantage du pavé, c'est du laiton, ça noircit. Et donc les enfants ont la charge, chaque année, de retourner, le polir et de le faire briller. Et je peux vous dire que je n'ai jamais eu besoin, dans n'importe quel village où je l'ai fait, de demander aux enfants d'y retourner. Ils y retournent systématiquement. Parfois, quand la mairie veut organiser un truc officiel de polissage, on est obligé de dire aux enfants, surtout n'allez pas les polir, parce que sinon ils seront propres quand on va arriver pour les polir. Pour vous dire à quel point ça fonctionne. On n'a plus besoin après de suivre le... Et donc là, quand je vois ça, on a gagné.
Oui.
On a transmis, on a réussi quelque chose.
Oui, mais je te posais la question sur... tu n'as pas vraiment répondu. Est-ce que, et je la précise un petit peu, ma question. Est-ce que s'il y a des réticences, qui comprennent, tu as dit ça pique, est-ce qu'elles sont sur le fond ou sur la forme?
Elles sont plus sur la forme. Alors, je dis ça pique parce que moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas que, justement, la mémoire devienne un combat. Donc, je ne me bats pas pour les cheveux portelains. Ceux qui les veulent, les acceptent et on y va. Ceux qui n'en veulent pas, ben, tant pis, c'est pas grave. Je veux pas que venir en concurrence de quelque chose. Je veux venir en complément de quelque chose. Donc, je comprends les réticences. Voilà, la première réticence, c'est on marche dessus. Évidemment, c'est le principe d'un pavé, de marcher dessus. Oui, mais on piétine la mémoire. Ok. Raïm Corsia, le grand rabbin de France, me disait, religieusement, pour les juifs, ça pose aucun problème, c'est pas une tombe. Et d'ailleurs, sur les tombes juives, on marche. Ça pose pas de problème particulier. Donc il me dit, non, religieusement, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça heurte la sensibilité des gens, moi je respecte ça. Effectivement, c'est très bien. Mais Raïm Corsia me disait, je préfère que vous posiez et que vous heurtiez plutôt que vous ne fassiez rien. Parce que ne rien faire, c'est pire que de faire quelque chose même qui n'est pas consensuel. Alors nous avons effectivement la ville de Paris, qui est, donc qui, je vous ai dit, hein, dans 31 pays d'Europe, dans 30 capitales, et la seule capitale européenne qui n'en a pas, c'est Paris.
C'est pas
vrai. Voilà. Donc, Paris refuse les Stolperstein, donc prétextant que ça donnerait une mauvaise image de la ville de Paris.
Voilà.
C'est la réponse officielle.
Non.
Mais je ne veux pas rentrer dans la polémique, ça ne sert à rien. Je ne suis pas là pour polémiquer, c'est un choix, voilà. Vous savez, le temps passe, les choses se feront un jour ou l'autre. Il y a d'autres capitales qui ont refusé, hein, au début, et qui sont venues quand ils ont vu. Voilà, je pense que le projet a besoin, en France, de mûrir, d'évoluer, et de prendre sa place, c'est tout. Il ne faut surtout pas qu'on vienne heurter non plus. Alors bien sûr, hein, être contesté, c'est être constaté, ça me va très bien. Mais je ne veux pas de violence mémorielle. Ça ne sert à rien. Nous, on n'a qu'un seul objectif, c'est honorer la mémoire des gens et c'est de répondre à une demande des gens qui en veulent. C'est la seule chose. Moi, ce que je demande simplement à la mairie de Paris, c'est de dire, ok, vous me dites, on n'en veut pas parce que ça donnerait une mauvaise image de la ville de Paris, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui en veulent vraiment, les familles pour qui ça compte? Et je vous ai dit avant, il n'y a pas que pour les juifs, c'est pour les résistants, c'est pour on parlait des communistes, voilà, je peux vous dire qu'à Paris, il y en a plusieurs qu'on pourrait poser pour ça, des handicapés, témoins de Jéhovah, etc. Et donc, je pense qu'il faut laisser le temps. Après, vous savez, à force, on commence à connaître un peu les stratégies. Hein. Voilà, Bordeaux, au début, on ne voulait pas. On a posé à La Brède, on a posé à Carteleg, on a posé tout on mine, en fait, autour. Hein. Et au final, Bordeaux a fini par tomber. Voilà. Paris tombera un jour. Et Raïm Corsia me disait aussi, Christophe, faites ça partout en France. De toute façon, Paris, c'est quoi? C'est un confetti. Donc on va attendre pour le confetti, c'est pas grave. Mais surtout ce qui m'importe, c'est que ce soit les familles qui soient d'accord avec le projet. Moi je ne pose pas de pavé si la famille n'est pas d'accord, évidemment. Ça c'est évident. Et je ne pose... Et si j'ai pas de famille, parce que ça arrive que des familles complètes ont été déportées, par exemple pour les juifs, si j'ai pas de famille, je me réfère à la communauté israélite. De la communauté, donc le consistoire en général, hein, où je cherche l'accord. Donc c'est eux qui s'engagent moralement pour les membres de leur communauté, et je trouve ça, c'est la moindre des choses. Voilà. Alors les consistoires sont très favorables, en grande majorité, les familles sont, une fois qu'elles ont compris ce que c'est, vous savez, souvent c'est l'ignorance qui fait qu'on rejette quelque chose, et une fois qu'on a présenté le projet, les gens comprennent à quel point c'est important. Et moi, ce qui pour moi est le plus beau, c'est chaque fois à la fin, quand les familles me disent, ils sont rentrés à la maison.
Ah ouais.
Ils sont rentrés chez eux. Ils n'étaient pas rentrés. Ces gens-là n'ont pas de tombe. Il n'y a plus rien qui rappelle leur mémoire. Si, vous avez le mémoire de la Shoah, bien sûr, mais ça demande quoi? D'y aller. Il faut faire la démarche d'aller vers le mémorial de la Shoah. Et donc c'est très bien le mémorial de la Shoah. Nous, on propose juste de venir en complément, en disant, voilà, eh bien nous, on va les rappeler, et puis on rappelle tout le monde, hein. Il n'y a pas de différence chez nous. Le plus petit, vous avez sur les photos, je racontais ce matin à quelqu'un qui me demandait, on a Bébé Bear qui est là-bas. Hein. Alors Bébé Bear, c'est un enfant qui est né en 1942, déporté en 1944 avec sa maman, exterminée. Lorsqu'on a posé son pavé dans son village natal, eh bien personne ne savait plus qui était Alain Bear. Il avait été totalement oublié par l'histoire. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans ce village, vous demander où est Bébé Bear. N'importe qui dans le village vous amènera à son pavé et est capable aujourd'hui de vous raconter son histoire. Et là, je crois que j'ai fait œuvre de transmission, l'artiste a fait œuvre de transmission, parce que c'est évidemment son projet. Moi, je ne fais que me dévouer pour que son projet voit à présent le jour en France. Aujourd'hui, il y a... Alors, il y a les pavés à Paris. Voilà, j'en ai posé quand même, parce que je suis quand même un peu un combattant. Et donc, je les ai posés sur le domaine privé. Voilà, donc entre le domaine public et le domaine privé, pour que des familles qui en voulaient vraiment puissent quand même... Alors, je vais vous raconter une simple histoire, hein, parce que la mairie de Paris se retranche derrière le fait que c'est surtout la communauté juive qui serait contre. Or, on a posé un pavé, le premier à Paris, pour Victor Perraia. Victor Perraia est juif, et il est encore vivant. Parce que nous posons pour les déportés. Donc qu'on soit libéré, on n'en reste pas moins à déporter. Et donc ça fait, depuis la fin de la guerre, il a été déporté à Bergen-Belsen à 9 ans. Et depuis son retour de Bergen-Belsen, tous les ans, il va dans un lycée témoigner. Et ce lycée, pour le remercier, voulait lui offrir un Stolpochstein. Et donc on a fait la demande à la mairie de Paris qui refuse. Alors là, vous imaginez M. Perraia du haut de ses 96 ans, qui dit « Mais comment ça ?» On me refuse à moi, mais c'est encore moi qui ai vécu la déportation. Qui peut se permettre de... Et donc, ne comprenez pas, il me dit, vous le poserez devant chez moi, sur ma partie privée. Il a une galerie d'art à Paris, et donc on l'a posé sur le seuil de sa porte, hein, à la galerie d'art, je peux vous dire qu'il est très visible depuis l'espace public, et c'est là où je me suis dit, allez, il faut qu'on continue à Paris, il faut qu'on fasse comme ça, et pour l'instant, malheureusement, parce que c'est pas le but du projet, il faut vraiment que ça appartienne au public, il faut pas que ce soit dans le domaine privé, parce que, vous savez, le problème, c'est bien les plaques, tout ça, mais le jour où le propriétaire n'en veut plus, il les enlève. Quand ça rentre sur le domaine public, comme les pavés, eh bien, ça appartient à la collectivité. Ça à vous, ça appartient à vous, ça m'appartient à moi. Et du coup, on ne peut pas y toucher. Ça devient sacré.
Et en Périgord ?
Pas pour l'instant.
Mais on va vous demander.
Alors, je sais qu'il y a hier... j'aime bien quand ça vient du monde enseignant. Et hier, donc, il y avait une prof de Sarlat qui m'a parlé et qui m'a dit, moi, ça m'intéresse. C'est un super projet, ça, pour les gamins. Donc, je pense que ça ne va pas tarder pour la Dordogne.
Donc à partir d'aujourd'hui, de cet instant, le projet est lancé. Est-ce que, alors, on va vous donner la parole, les questions, que ce soit sur la mémoire de la résistance, la mémoire de la...
Je peux juste dire un mot de ça.
Alors voilà, le deuxième livre de Christophe, La boîte à offert.
Court.
Une histoire incroyable, l'histoire de son arrière-grand-père, et c'est une histoire symbolique de l'Alsace aussi.
Je vais faire très court. Mon arrière-grand-père est né en 1894. Il est né allemand.
Il est né allemand.
Il va faire la guerre, première guerre mondiale, en uniforme allemand. Il va partir en Russie, comme tous les Alsaciens, à qui on ne peut pas faire confiance, évidemment, parce que ce sont des traîtres. Il va être fait prisonnier par les Russes. Il est envoyé dans les camps en Serbie, puis ramené dans le nord de la Russie pour être transféré comme Alsacien Lorrain vers la France. Il deviendra prisonnier de guerre français. Puis en 1919, on va lui donner la nationalité française. Alors on dit une réintégration de plein droit. Il n'a jamais été français, hein. Mais on le réintègre dans la nationalité française. Pour lui, il ne parle même pas le français, c'est assez compliqué. On l'intègre parce que les Alsaciens, après la fin de la Première Guerre mondiale, sont réintégrés dans l'armée française, dans un régiment d'artillerie coloniale. Les Alsaciens sont une colonie à ce moment-là, officiellement. Enfin voilà, des choses hallucinantes. Et puis, il va devenir français de cœur.
arrive 40, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Il va vivre ça comme une horreur absolue de sa vie. Alors il n'a pas besoin d'aller faire l'armée, mais pour lui, la France et l'Allemagne étaient ces deux pays, en fait. Il conçoit pas de faire la guerre avec l'un ou avec l'autre. Et j'ai eu la chance, moi, il meurt en 1992, et donc j'ai 23 ans quand il meurt. Et évidemment, il ne. Alors, pour moi, c'est une chance, il ne parlait que de ça. Moi, mon grand-père, quand il commençait à parler de ça en famille, tout le monde disait « Oh, ça y est, recommence ouais, !» ouais, ouais. Et moi, j'étais un jeune, j'étais avide, j'adorais l'histoire, et je l'écoutais, je buvais ses paroles. Et ma grand-mère, donc sa fille, est décédée juste avant la Covid. Et je me souviens de cette boîte en fer qu'on a à la maison. Et dans cette boîte en fer, en fait, il y avait tous ses souvenirs, mon grand-père. Les photos de famille, les documents, les cartes, les poèmes qu'il avait écrits, toutes ces questions qu'il s'est posées pendant sa vie. Et en fait, moi, cette boîte, j'avais le droit de l'ouvrir, hein, j'ai toujours ouverte. Mais là, quand ma grand-mère a décédé, j'ai récupéré en héritage cette boîte. Et je me suis dit, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce qu'il m'a raconté, de ce qu'il m'a transmis, comment est-ce que je l'ai reçu? Et finalement, qu'est-ce qui est dans tout ça? Qu'est-ce que j'ai fantasmé? Qu'est-ce qui est vrai? Voilà, c'est exactement la même démarche. Absolument. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Oui. Parce que, voilà, c'est... Et il m'a transmis quelque chose. Il m'a fait un cadeau. Je ne suis pas devenu historien, amoureux de l'histoire pour rien. Et c'est une transmission inconsciente. Oui. Il ne l'a jamais voulu me transmettre. Voilà. C'est quelque chose qui s'est fait à un moment donné dans nos vies, et je le remercie pour ça. Et c'est une belle histoire, une histoire d'amour, une histoire de transmission. Vous avez tous à la maison une boîte en fer, oui. Et je vous invite honnêtement à l'ouvrir, ça vaut le coup. Mais c'est, vous avez dit avant, vous avez eu beaucoup de mal à écrire. Moi j'ai eu énormément de mal à écrire ça, parce que quand on est historien, on n'aime pas parler de soi.
Absolument, oui.
Et quand j'ai écrit la première version du bouquin, j'ai commencé le livre, l'introduction par « je ». Et très vite, quelqu'un qui l'avait relu, qui était proche, me dit « on sent que tu prends trop de distance, tu te mets trop à l'écart de ton sujet. Fais autre chose, laisse parler la boîte. » Et c'est la boîte qui va vous raconter cette histoire et me permet à moi un peu de me planquer un peu derrière cette histoire pour cacher mon amour que j'ai pour ce héros, finalement, parce que pour moi c'est un héros, mais c'est un héros ordinaire, c'est un des constructeurs de l'Europe. Mon grand-père, après la Deuxième Guerre mondiale, disait « je ne suis pas français, je ne suis pas allemand, je ne suis pas alsacien, je suis européen oui. ». Merci à vous.
Voilà, et j'ajouterais que les rapports, je sais pas, alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais les rapports entre le Périgord et l'Alsace sont tellement étroits que renseignez-vous si ça vous parle pas trop, mais les rapports entre le Périgord et l'Alsace sont incroyables. Donc à nous, ça nous parle, à nous Périgordins, je veux dire, hein, ça nous parle vraiment de près. Alors, mes amis, maintenant. La parole est à vous. Nos deux invités sont là pour répondre à vos questions. Vous avez, pour l'essentiel d'entre vous, entendu tout ce qu'ils ont raconté. Première question, ce sera la plus difficile, évidemment.
Allez, moi, je me danse.
Ouais. Allez-y, Madame Bonnefort.
Bonjour.
Attends.
Non, mais
parle fort alors.
Ce que je trouve de similaire, il est autoritaire. C'est dans vos deux démarches, c'est ça se fait après le décès.
Oui, c'est vrai.
Donc là,
alors voilà.
Là, attends, je finis. C'est l'urgence. C'est l'urgence d'écrire à ce moment-là. Tout remonte, il faut le consigner. Ouais. Donc je trouve ça très similaire.
Je vais le répéter parce qu'au fond, je pense qu'on n'a pas entendu. Elle demande, elle constate que les deux démarches d'écrire sur ces thèmes ont été faites après le décès des personnes dont on parle. Donc est-ce que c'était une urgence de faire cela à la mort de...
Ou le bon moment.
Ou le bon moment, ouais. À la mort du grand-père, de l'arrière-grand-père et, ou du père.
Oui, il y avait un sentiment d'urgence parce que
C'est exactement la phrase de Socrou, hein. Que vont devenir les histoires quand ceux qui les racontaient sont ont disparu? C'est-à-dire que il fallait bien soit ben on fermait et on vivait comme on va, soit quand même on en héritait, on estimait que voilà, que on, il fallait en faire quelque chose, quoi. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec la boîte, hein.
Alors moi j'ai quand même eu besoin de 40 ans, le temps de la maturité, entre le décès de mon père et l'écriture, donc il est mort en 1992, j'ai écrit en 2023, mais c'est au décès de ma grand-mère, sa fille.
Ah oui.
Donc ça a appelé un autre décès, mais effectivement c'est aussi après le décès.
Excuse-moi, mais ça montre bien quand même à quel point justement la temporalité de la transmission est quelque chose de complexe, hein. Et que nos vies ont des temporalités qui, ces histoires de devoirs de mémoire, ça ne peut pas fonctionner, quoi. C'est-à-dire, si, bon, ça va laisser des traces, il va y avoir des monuments, il y aura des commémorations, mais la mémoire, c'est autre chose, quoi, hein. Et puis, alors moi, j'étais très sensible à cette histoire d'individualiser par les pavés. Et ça me ramène à la grande histoire et au procès. Que reste-t-il des grands procès de l'après-guerre, hein ? Et j'ai retrouvé une phrase de Grossmann qui dit « L'individu est la source et la finalité du droit. » L'individu. Hein ? Et puis, là, je citerai aussi Marc Bloch, les faits historiques sont des faits psychiques, ça passe par des individus. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'histoire, vue d'un point de vue d'en haut, objectif, vue de neutre, avec des faits, avec des thèses, avec des travaux. Il n'y a pas que ça. Voilà.
Il y a une incarnation.
C'est pour ça qu'on me demandait, M. Varlet, est-ce que vous êtes un historien militant ? Alors non, je suis un historien qui fait un travail factuel de recherche et qui a une rigueur, parce que c'est mon métier.
Voilà.
Et ensuite, je deviens un militant.
Voilà.
Je me sers de mes travaux de recherche pour devenir un militant et défendre quelque chose. Mais les deux sont parfaitement séparés, parce que sinon, on nous reprocherait. Mais complètement liés, évidemment. L'historien qui vous dira « je suis objectif
oui. »,
ne le croyez surtout pas.
Comment expliquer qu'on se heurte à des perversions comme le révisionnisme ou le négationnisme ? Désolé, c'est...
Je pense qu'il y a plusieurs mécanismes. Après, ça c'est du ressort plus de la psychanalyse, je pense. Mais c'est toujours d'aller vers la... Pour moi, c'est le fait d'aller vers la facilité. C'est beaucoup plus facile de remettre en question un ordre établi. C'est aussi souvent un besoin de remettre en question, de révolte. Et on voit bien que le négationnisme, c'est utilisé par des courants de pensée qui sont très extrêmes, qui justement se servent de ça pour une idéologie, pour une transmission aussi finalement, négative évidemment. Mais ça fait aussi partie, à mon avis, des mécanismes de psychanalyse. Vous êtes beaucoup mieux placé.
Non, mais oui, alors c'est quand même très intéressant parce que de toute façon, on dit que c'est des idéologies. Voilà, c'en est, bien sûr. Et moi, en ce moment, je découvre avec quelqu'un qui revient me voir et qui est plongé dans un texte qu'elle a trouvé de son grand-père qui a écrit un journal de 1940 à la Libération. Et c'est un pétainiste forcené, Révolution nationale, et qui raconte qu'il s'est jamais aussi bien porté parce que maintenant il fait du vélo, qu'il va chercher des légumes frais en vélo au marché noir, qu'il va de restaurant en restaurant, enfin, et elle me raconte ça, et c'est quelqu'un qui n'a jamais pu hériter de quoi que ce soit. C'était des grands bourgeois, c'était des banquiers, c'était. Voilà. Et toute la famille. RMI, insertion. Enfin, elle-même ne comprend pas comment il se fait qu'elle ait autant de difficultés dans la vie quotidienne, financière, professionnelle, tout ça, alors qu'il y a là un capital. Elle devrait hériter de ce capital. Seulement, ces pétinistes et tous ces gens-là, et puis qui ont abusé de biens juifs et tout, mais on ne peut pas en hériter. Donc elle a ce texte. Et alors au début, elle était assez alerte, elle me dit « Ah, ça me fait plaisir !» Et je trouve que ce type est plus vivant que ces névrosés de parents. Hein. Je trouve qu'en effet, ce type de la collaboration semble avoir bien vécu. Alors, dans un premier temps, je lui dis « Ben c'est bien, au moins, là, voilà quelqu'un qui ne se pose pas de questions. Il suit son désir. » Bon, d'accord. mais l'ensemble de la descendance est dans, ce sont des sinistrés du désir, ce sont des sinistrés de l'avenir, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais pu hériter et qui ont un poids sur les épaules terrible. Et là, je découvre avec quand même, rétrospectivement, je me dis, mais t'as eu combien de collabos dans ton cabinet depuis que t'es à Bordeaux ? Il y en a beaucoup. Beaucoup. Et pour qu'est-ce que ces gens-là venaient chercher chez moi ? Mais ils s'en sont bien sortis, et on s'en est bien sortis. Tous, eux et moi. Et on s'en est sortis vivants, je pense. Et quand même, c'est chouette, ça, je trouve. Hein ?
Bravo ! Ce sera la conclusion, puisqu'il y a un autre débat qui va ouais. Prendre notre place ici.
Patrice, vous voulez rien dire ?
Merci.
Je peux juste préciser.
Alors juste un mot parce que ça pose derrière.
Je ne connais pas ton travail, donc je ne peux pas le
parler.
Par contre, j'ai dévoré votre livre parce que je trouve que c'est une approche vraiment très originale de la transmission de cet héritage de la résistance. Mais ça ne concerne pas que la résistance en réalité.
Non.
C'est la vie d'une famille avec des traumas, des désillusions, ce Pierre qui apparaît tout le temps sous de multiples identités. Donc c'est vraiment une approche très originale que je conseille vraiment de lire. Ouais.
Et pour vous tous, pareil. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Aussi bien Christophe que moi, parce que quand même la partie individuelle de notre démarche est quelque chose que l'on a eu du mal à assumer. Hein ? T'es d'accord ? Tiens.
Belle journée. Merci.
Belle journée.
Moi, je suis content que vous soyez content.
On est content. Ah, lui aussi, lui, on l'adore.
Jackie s'en occupera.
Tu veux
que je te dédicace le mien ?
Avec plaisir. Ouais,
Faut qu'on laisse la place. Laissez,
oui, la place.
On va faire ça.
Ouais.
Alors, je vais arrêter l'enregistrement.
Bravo, bon mec. Ah, voilà, c'est mon petit-fils, tu vois, il y a mes petits-fils. Ils sortent de la boîte.
Allez.
Voilà, bien, il faut qu'on leur
laisse. On va bouger, je termine. Hop.
Oui, c'est ça. D'accord, il y en a deux.
Voilà. Merci, monsieur Bonnefond.
Merci, monsieur Bonnefond.
Non, c'est juste.
Voilà.
C'est vous qui avez fait la conférence
de la chaîne ? Non, moi c'est autre chose. Peut-être faudrait-il que je lui rende pour avoir fait les liens.
Je vais pas vous poser ma question.
Attends, je vais aller chercher mes lunettes de vue. Merci.
Bonjour Monsieur Pina. Ça va bien ?
Bonjour. Non. Et nous sommes venus pour ce moment ici. Maintenant, on donc à faire. De notre côté, ça fonctionne mal.
Merci. Je ne suis pas.